Or, après la guerre, une autre de mes cousines avait épousé un marin de la marchandise, marine marchande ici, qui faisait donc l'aller et le retour entre Anvers et Buenos Aires. Et il rencontrait ses cousines. C'est donc une cousine du côté de mon père, une cousine de ma mère. Donc j'avais tout le temps, si vous voulez, dans l'oreille, dès l'enfance, enfin, des récits sur ses cousines qui habitaient à Buenos Aires, etc. On parlait de Perón, et que, il paraît qu'elles étaient toutes les deux aussi folles l'une que l'autre. Voilà. C'est ce que le capitaine disait. Voilà, donc si vous voulez, il y a cette fascination d'aller en bateau, de traverser le monde, pratiquement, puisque donc. Et un jour, j'ai fait l'expérience, j'ai trouvé un bateau à Anvers qui prenait encore des passagers. Et je suis parti d'Anvers, nous avons remonté à Rotterdam et j'ai descendu, j'ai traversé tout l'océan Atlantique en s'arrêtant au Brésil, en s'arrêtant en Uruguay pour finir à Buenos Aires. Le fameux Buenos Aires dont j'entendais tout le temps parler, où j'ai rencontré la cousine en question, une des deux.
Vous allez à l'Orient aussi?
Mais oui, ça. J'ai été en Orient, j'ai été. Ben oui, j'ai été. Donc, vous savez que le voyage en Orient avant du temps de Gérard Nerval, qu'est-ce que c'était? C'était le Proche-Orient. Hein. C'est pour ça que certains m'ont dit, mais enfin, tu parles de Ljubljana, de Moussavi, mais c'était considéré déjà comme l'Orient. La Grèce était l'Orient. À l'époque. Mais il y a un Orient très accessible qui était très à la mode, enfin il y a du temps de la budget des riches, etc. C'était l'Inde. J'ai compris, étant en Inde,
Katmandou
pourquoi?
aussi,
Katmandou,
Katmandou,
pourquoi? Mais pour fumer son joint. Parce que dès que j'étais là, tout de suite, je me suis fait aborder pour que j'achète du hash. Enfin, bon, c'est pas du tout mon état d'esprit, mais donc. J'ai compris alors pourquoi il y avait une vogue de l'Inde, ce n'avait rien de mystique ni quoi que ce soit, c'est surtout pour fumer son pétard, très très bon marché, pour se faire, hein, comment on dit, planer, c'est ça. Et donc, enfin, c'est un pays qu'on peut visiter facilement, puisque grâce à l'anglais, à la langue anglaise, donc, que tout le monde parle, où on parle, qui est très très répandu. Donc, j'ai été en Inde, au Pakistan, au Népal. Voilà.
Tout ceci, c'est dans votre recueil qui est paru chez Gallimard, en Orient.
Oui. Ensuite, j'ai été en Égypte et j'ai été en Turquie. Voilà. En Turquie, c'est très bizarre. J'étais donc jusqu'au fin fond de la Turquie, jusqu'en Arménie, parce que j'étais fasciné par la Russie. Je voulais des maisons qui rappelaient un peu la Russie. C'est que j'étais jusqu'en Arménie. Effectivement, j'ai vu ces maisons. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas moyen d'aller en Russie, hein, c'était l'Union soviétique. Enfin, je suis parvenu à aller malgré tout grâce à une bourse que j'ai reçue d'un mécène belge qui. Parce que ça coûte très cher, hein, encore maintenant d'ailleurs. Par la cause de Dostoïevski, évidemment. Ou bien par des films qu'on a vus, on voit de ces maisons russes avec des fenêtres assez basses, comme quoi, c'est ce qu'on peut avoir en tête. Hein. Donc, je voulais voir de ces maisons, effectivement. Donc, j'en ai vu à Kars. À Kars, donc c'est une ville. Ci-devant arménienne, puisque vous savez bien ce qui s'est passé dans cette région-là, et qui est vraiment tout proche de la frontière avec l'ex-Union soviétique.
Vous parlez aussi du délabrement des pays, des anciens pays communistes, dans la vieille patrie.
Ah oui.
Apparemment, ça, c'est quelque chose qui vous a aussi.
Ben oui, parce que donc nous étions tout à fait aveuglés par la propagande. Et aussi par le fait que les Russes envoyaient des gens dans l'espace, c'est extraordinaire, ils ont une technologie formidable. Alors quand on arrive sur place, on constate que pour la technologie ordinaire, je dirais, des téléphones ou des portes de dessous, ou des poignées de portes, ils sont complètement nuls. Hein, ou des ascenseurs, les grands hôtels, la chose à maintenant Saint-Pétersbourg avant Leningrad. L'hôtel où je me trouvais était construit entièrement par les Suédois. Et les Français ont construit des grands hôtels de Moscou parce qu'ils sont incapables. Ils n'ont pas cette technologie, je dirais, de la vie ordinaire. Hein. C'est ça un peu. Ce qui est absurde, c'est que les gens vivent dans une pauvreté, hein, pas terrible, confiné dans des appartements, qui ne sont même pas des appartements. Et alors que de notre côté, ils envoient des satellites dans l'espace, enfin, vous voyez, c'est ça. Et qu'ils ont la bombe atomique. Et, bon.
William Pee, vous êtes également romancier. Alors, il y a deux romans qui, nous, ici à Toulouse, nous interpellent pas mal. Le premier, c'est La Sainte Famille, puisque vous décrivez dans ce livre qui est publié à la Table Ronde, vous décrivez votre séjour à Montoulieu, qui est donc très près de chez nous, près de Carcassonne. Vous parlez du Cabardès. Je me souviens même, après avoir lu votre livre, nous sommes allés au restaurant et j'ai demandé qui est le. J'ai pris du Cabardès.
Ah bon, vous avez aimé? Ah,
oui, j'ai beaucoup aimé, oui. En disant, tiens, ça, c'est William Cliff qui.
Mais donc là, j'ai dit, oui. J'ai été invité par Pirotte. Hein. Pirotte était donc en résidence à Montaudu. Alors, c'est lui qui a inventé dans cette collection les écrits du Cabardès. Et grâce aux sponsors, si vous voulez, des vignerons du Cabardès, entre autres, enfin, hein, et de la région Languedoc-Roussillon, il a créé une collection littéraire. Et notamment, moi, j'ai une résidence à Montaudu pour écrire un roman. Donc, ce roman, c'était une commande. Hein. Donc, voilà. Il fallait même commencer par les mots suivants, donc les contraintes étaient. Il fallait commencer par les mots. Je vous écris de Montaudu.
Ah oui.
Et alors, moi, j'ai trouvé, si vous voulez, la fiction suivante, c'est que j'appelais donc Pirotte le baron. Et alors, je commence le livre en disant, cette année-là, j'ai reçu du baron une lettre qui commençait par ces termes, je vous écris de Montaudu. Dans laquelle on lui disait de me rendre à Montaudu pour y passer l'hiver.
Et puis, un deuxième roman, paru en février 2004 aux éditions Anatolia du Rocher, c'est La Doge, dont je crois en parler en début d'entretien, c'est-à-dire l'épopée de votre père.
Exactement.
Avec ses enfants, ses neveux et vous dans le ventre de votre mère, qui est descendu donc dans la région toulousaine. Et puis, il y a la remontée.
Oui.
Et il y a la vie de votre père qui est donc un personnage impressionnant dans tous les sens du terme.
Oui.
et la vie ici à Gembloux.
Voilà. Donc, si vous voulez, j'ai prêté parole à mon père, donc, parce que oui. C'est lui qui parle de lui-même. Mais j'ai pris le parti de donner de lui une image entièrement positive. Alors que j'avais plutôt des problèmes, j'ai eu de graves problèmes avec mon père, d'ailleurs nous avons tous eu, nos frères et sœurs, des problèmes avec notre père, donc c'est un homme problématique, et j'ai pris le parti d'en donner une image tout à fait positive, donc c'est lui qui parle, il dit voilà, je voulais faire ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, voilà. Donc c'est si vous voulez, comment est-ce qu'on appelle ça, un discours, comment est-ce qu'on dit ça, il y a un mot technique de la littérature qui désigne ce genre de discours. Ce discours, je ne sais pas comment dire, c'est une technique employée notamment par Joseph Conrad, le romancier Joseph Conrad, qui introduit un personnage lequel il raconte. Vous voyez ?
Oui,
et souvent d'ailleurs Barbé d'Orville aussi, si vous lisez les diaboliques de
l'Église,
il introduit un personnage, il tout ça, et puis alors, il y a un personnage qui arrive, qui raconte. Oui. Vraiment, ici c'est mon père qui raconte. Et puis alors, à la fin, je fais une petite parenthèse pour dire, ainsi parle-t-il, etc. Et puis alors, je lui redonne la parole et il finit.
C'est un récit qui est très alerte, très émouvant, que je recommande donc absolument la lecture. Et puis ça parle quand même malgré tout au départ de la région toulousaine.
Oui, puisque donc mon père a été séjourné là. Donc,
un des textes que je trouve les plus poignants de vous, justement, c'est un texte sur votre père. Je ne me souviens plus dans quel recueil il est, mais il y a un texte sur votre père qui est magnifique. Qui est très émouvant.
C'est pas le sommet. Pardon ?
C'est pas dans la Je me souviens pas. Mais il y a vraiment une parole d'amour extraordinaire, je trouve, dans ce
texte. Oui, c'est dans. Fête nationale.
Fête nationale, oui.
Mais, oui, là, évidemment, là, c'est une emblématisation du père, en général. Hein. Vous voulez que je le dise?
Si vous l'avez ici, ce que...
Non, je crois qu'on l'a pas.
Ah ben,
bon, je le lirai, moi.
Ça va. Sinon, ici, dans mon autobiographie, je peux vous lire un sonnet, donc, qui concerne mon père.